Libre Radio, la radio qui prend l'air et qui fait le beau temps. www.libradio.org.
Nous siégeons avec Libre Radio en plein cœur des grottes à Genève, juste derrière la gare Cornavin, à l'occasion de Nemesis, le peuple versus le WEF, le World Economic Forum de Davos, dont on dénonce les méfaits qui sont pléthore, nombreux, et dont on ne cessera pas de dénoncer les... Alors, d'une part, de dénoncer ses nocivités, d'une certaine manière, mais sans omettre d'essayer de trouver des solutions, d'explorer des pistes, et quoi qu'il en soit, de créer des occasions de rencontre avec les personnes qui, dans la société civile, individuellement ou au sein d'associations, tentent d'infléchir ce qui va mal dans ce monde, et il y en a des choses à faire dans ce monde. Alors, nous accueillons justement... deux personnes, Luca et Richard, bienvenue à vous.
Merci. Merci.
Avec plaisir, bienvenue. Donc vous avez tous les deux fondé une association qui s'appelle L'Aimant Libre et qui s'occupe d'informatique libre. Alors ça c'est quelque chose qui évidemment nous... Alors moi je suis un profane complet, un ignare, donc ça va être... Voilà, mais on comprend bien les enjeux qu'il y a là derrière. Et sachez également que... à chaque fois, début janvier, le 13 janvier, c'est la date du suicide de Aaron Swartz, et que nous, à chaque fois, on tente à ce moment-là de parler d'informatique libre, d'open source, de Creative Commons, de Linux, de Debian, de toutes ces choses-là, avec les moyens qui sont les nôtres, donc qui sont certainement un petit peu émoussés, parce qu'on n'est pas des spécialistes de la question, et parce que c'est des questions complexes. Mais donc, on est par ailleurs extrêmement ravis de vous recevoir pour ce petit moment d'interview radio et puis ensuite pour l'atelier que vous allez nous proposer et dont vous allez nous parler maintenant. Mais avant tout, présentez-vous peut-être un peu plus à fond, vous-même en tant que personne ou vous-même au sein de l'association. Qui commence, Luca?
Alors, mon nom est Luca, je suis président de L'Aimant Libre, j'ai été formé en sciences politiques et après coup, je suis plutôt allé en direction de l'informatique où j'ai fait du support et j'ai travaillé dans des entreprises, différentes entreprises, et au bout d'un moment, j'ai eu l'occasion de découvrir l'informatique libre, à l'occasion d'une visite de Richard Stallman, qui est un de ses défenseurs premiers, et il était en visite à Genève, et à partir de là, la graine était plantée, et je me suis intéressé de plus en plus à ce côté de l'informatique qui est peu connu pour des raisons évidentes. C'est de l'informatique souvent, il n'y a pas de marketing derrière, c'est des projets qui sont souvent développés par des individus dans leur cave. Alors, c'est moins le cas peut-être aujourd'hui, mais du coup ce qui m'a intéressé, c'était le lien entre finalement l'informatique et le politique, et l'informatique ça fait l'informatique libre et un peu le trait d'union entre ces deux domaines.
Merci, Luca. Richard, voudrais-tu toi-même te présenter?
Oui, je m'appelle Richard Medina, de formation ingénieur de software. Mm-hmm. Tout à fait différent, Monsieur Luca, c'est le président de l'association. Je préfère indiquer. Lui, c'est le porte-parole de notre association, mais moi, ma personne, c'est secrétaire de l'association. Mm-hmm. Uniquement, je préfère la communication, plutôt la partie technique.
D'accord.
Et je suis arrivé sur la partie libre, étant donné que je suis un peu, excusez-moi pour le mot, écœuré de comment il se gère l'informatique par Microsoft et par Apple.
D'accord. Tu as dit que tu es de formation ingénieur en software. Voudrais-tu préciser pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que les softwares? Est-ce que c'est par opposition au hardware ou est-ce que c'est complémentaire? Qu'est-ce donc?
Ingénieur de software, si on peut dire, c'est l'analyste, implémenteur et celui qui est en charge et mis en service de toute une application. C'est le software précisément sur une machine, sur un serveur, sur un réseau.
D'accord, j'ai bien compris. Ok. Alors, vous avez parlé informatique libre. Est-ce à dire qu'il y a une informatique prisonnière, non libre? Et si oui, comment est-ce qu'on distingue l'une de l'autre? Enfin, que recouvre ce que l'on nomme informatique libre? Qu'on ne recouvrirait pas l'informatique non libre?
On oppose l'informatique libre à l'informatique propriétaire, dit propriétaire, mm-hmm. Et c'est la distinction, elle ne se fait pas au niveau de du logiciel, mais au niveau de la licence qui détermine ce qu'on peut faire avec le logiciel. l'informatique libre, l'idée c'est que la licence qui va gérer la distribution du logiciel est plus libre que la licence d'un logiciel dit propriétaire. Cette liberté, elle se manifeste de différentes façons. Elle se manifeste dans le fait que le logiciel peut être transparent à l'utilisateur, que l'utilisateur peut l'étudier, mais aussi que l'utilisateur peut le modifier et peut le partager. Et ça, c'est plusieurs libertés fondamentales qui sont offertes par les logiciels dits libres et que les logiciels dits propriétaires n'offrent pas. Donc,
d'accord. Ok. J'ai quelques mots que j'aimerais soumettre à votre appréciation, en tout cas que vous nous les décodiez comme une sorte de petit lexique pour qu'on arrive peut-être à se comprendre mieux. Parmi les mots que l'on entend beaucoup concernant l'informatique libre, alors il y a évidemment ce mot, je dirais peut-être principal, c'est le Creative Commons. Peut-être commençons par ce mot-là. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que le Creative Commons ? C'est Lucas qui répond.
Alors... Dans le domaine de l'informatique libre, la question des licences est centrale. Pour gérer la distribution des logiciels, c'est des licences telles que la licence GNU qui est utilisée. Le Creative Commons va s'intéresser plus au contenu non logiciel. Donc c'est l'application de ce type de licence à des contenus, par exemple, écrits de type Wikipédia. Et le Creative Commons, l'idée derrière, j'en suis pas un spécialiste, c'est d'appliquer une licence similaire à des contenus qui sont dans le domaine extérieur à l'informatique.
D'accord, donc ça ne touche pas à la technique, pourrait-on dire. Là, il s'agit plutôt vraiment de la diffusion de savoir.
Exactement.
J'ai compris. Alors, d'autres mots, qu'est-ce qu'on entend quand on dit... Alors, il y a évidemment ce mot GAFA qui désigne les géants du web, hein, si j'ai bien compris, sur lesquels, j'imagine, par rapport auxquels vous vous extrayez, en tout cas sur lesquels vous portez un regard critique.
Oui, les GAFA, si on peut dire, c'est les compagnies, les grosses compagnies sur le web qui recopilent des informations sur nous. Ils nous donnent des services gratuits, type Gmail, type les murs de Facebook ou autres, Twitter comme messager, et qui recopilent toutes sortes d'informations, tellement que maintenant, ils peuvent prévoir nos actions futures. Et là, les gros dangers qui existent.
D'accord, je comprends. Encore un mot ou deux, j'aimerais que vous nous disiez qu'est-ce que le code ? Parce que souvent, on entend des gens parler entre eux en disant « Ouais, voilà, là, il faut faire du code, c'est le code source qui est important, c'est ça qu'on peut partager. » Qu'est-ce donc que ce mot un petit peu mystérieux, un peu interlope, code source ? Qu'est-ce que ça désigne ?
Bon, si on parle en termes informatiques, code, c'est la partie cachée aux utilisateurs derrière pour qu'ils marchent. C'est le langage entre les machines et les softwares pour que ça marche toutes les applications.
D'accord.
Si on parle en sens plus large, code, on peut le dire toute la partie pour la mécanique pour qu'une chose marche. Ça peut être appliqué aussi pour, comme vient de dire, la technique mécanique ou un autre type de sujet. La médecine, on peut l'appliquer. C'est la procédure pour faire, par exemple, une opération. On peut l'appeler ça, code.
Peut-être pour en complément à l'explication de Richard, on pourrait voir le code, pour prendre une analogie avec le livre, chaque logiciel informatique qui réalise des fonctions est comme un livre. Et si c'est le cas, alors son code, c'est le langage dans lequel le livre est écrit. Et le langage qui utilise des symboles. Comme notre langage naturel, sauf que le code informatique utilise un langage plus formel que le langage naturel qu'on utilise tous les jours.
D'accord, très bien. Juste pour rappeler qu'autour de nous, si les questions émergent, il ne faut pas hésiter. Je sais que Igor a la technique et est féru donc la prochaine question, c'est comme si c'était elle qui la posait. Concernant les mots, de nouveau, encore quelques petits mots comme ça qui nous paraissent pour nous être un petit peu des pierres angulaires de l'informatique libre. Qu'est-ce donc que Linux, que Debian et que Tor ? Et voilà, il y a ces trois mots-là et puis après j'arrête là.
Ce sont trois exemples de logiciels. Le logiciel, c'est ce qu'on va installer sur du matériel. Linux, c'est le premier exemple d'un système d'exploitation libre et populaire qui a émergé dans les années 90. C'est le système d'exploitation, c'est un peu comme l'âme de l'ordinateur. C'est ce qui va gérer, exploiter les ressources matérielles. Et Linux, Linux est un système, enfin c'est le noyau de ce système, c'est ce qui permet d'animer un ordinateur. Maintenant Linux est présent un peu partout, dans différents ordinateurs, mais aussi à la base d'Android sur lequel on va faire un atelier plus tard. C'est un noyau aussi Linux. Debian, c'est à la fois le noyau Linux et d'autres éléments autour. Ces autres éléments, Linux est modulaire, et ces autres éléments, ça va être par exemple l'interface, le bureau, ce que l'utilisateur va voir. Ça, c'est un point. Ça va être la gestion des logiciels, comment les logiciels se mettent à jour. Et Linux, c'est un système complet qui est gouverné de façon assez unique par un contrat social entre les développeurs. Et Debian est devenu un des systèmes les plus populaires. Tor, c'est plutôt là, on se tourne plutôt vers un logiciel ou plutôt un réseau qui permet à des individus d'échanger des informations de façon sécurisée, on va dire, chiffrée également. Et l'idée de Tor, c'est de permettre à tout un chacun, de communiquer sur Internet. De façon sécurisée ou anonyme, en empêchant par exemple à un observateur externe de déterminer d'où vient l'information. Donc Tor ne va pas chiffrer l'information en bout, mais si quelqu'un observe, Tor fonctionne à des entrées et des sorties. Mm-hmm. Si quelqu'un observe ce qu'il y a à la sortie du réseau, il va avoir un flot d'informations, mais ce sera potentiellement mes mails, ceux de quelqu'un d'autre, les navigations d'autrui, et donc quelqu'un qui observerait ce qui sort du réseau ne pourrait pas déterminer qui a créé l'information au début de ce réseau. Donc c'est ce projet qui a été d'abord fondé par DARPA, une des officines de la défense américaine, et qui a été plus tard repris par des militants. Donc son histoire est intéressante, et elle montre que ces moyens-là sont parfois aussi utilisés sont détournés, réutilisés, et Tor, pour revenir au logiciel libre, c'est aussi un logiciel libre, comme
d'accord.
Linux,
ouais,
et comme Debian.
Nous aurions énormément de questions à vous poser, donc on vous réinvitera à la radio, ça certainement. Encore une petite, une ou deux petites questions, il ne faut vraiment pas hésiter à intervenir. Est-ce que justement Mentor n'est pas un moteur de recherche? Typiquement DuckDuckGo par exemple, c'est autre chose encore.
Alors oui, Tor n'est pas un moteur de recherche, c'est plutôt, j'étais pas préparé pour présenter des analogies, mais Mentor c'est comme si vous imaginez Internet, c'est le réseau, c'est un réseau autoroutier, l'Internet visible, et Tor, ce serait comme si c'était des tunnels qui étaient créés et qui permettraient à l'information d'être transférée de façon plus anonyme, on va dire, ou chiffrée. J'utilise pas les mots forcément les plus pertinents. Je suis pas un expert de Tor, mais voilà. Non, à l'intérieur de Tor, il faudra un moteur de recherche. Donc vous aurez besoin d'un moteur de recherche. Et on peut, il y a des moteurs de recherche pour l'intérieur de Tor. Il y a aussi des gens qui listent des sites simplement qu'on peut rejoindre à travers Tor, et certains même, y compris certains réseaux sociaux.
D'accord. Très bien. Eh bien, je vais encore vous poser une question ou deux sur l'association en elle-même, et puis ensuite on va vous laisser nous donner cet atelier, et on se réjouit. Depuis quand existe-t-elle cette association, et d'où vous est venue l'idée de la créer? C'est Richard qui répond, en tout cas qui commence à répondre.
Oui, l'association, il est né dans le fait que je cherchais des personnes qui étaient compatibles, dans le fait de donner cette connaissance, partager notre connaissance avec des utilisateurs qui ne sont pas dans l'informatique. Là, j'ai pu me contacter avec certains parrains sur la région. Je parle de la région lémanique,
oui.
Genève, Haute-Savoie, et Gex actuellement, que j'ai pu contacter pour le réunir tous ensemble. On s'est pu se contacter tous ensemble. Et on avait une envie, c'est partager nos connaissances. Je pense que c'est la source de l'open source pour nous.
Exactement. Ouais. Et alors, est-ce que vous sollicitez des lieux pour aller délivrer ces savoirs. J'ai envie de dire le mot délivrer parce qu'effectivement, des fois, il faut les délivrer. Ou est-ce que de plus en plus des gens viennent vers vous pour vous solliciter? Parce que moi, typiquement, je serais prof, j'aurais envie de vous dire, mais venez dans ma classe, expliquez à mes élèves quels sont les enjeux de l'informatique libre. Où est-ce que ça en est? Est-ce que vous êtes encore, vous, à la recherche d'espace pour vous exprimer? Ou est-ce que d'ores et déjà, vous êtes sollicité?
Sollicité, pas encore. On est une association qui est jeune, qui compte encore vraiment 5 membres actifs. Donc, on est plus encore au niveau d'un groupe d'amis. Ce qu'on essaye de faire et notre proposition, c'est d'avoir des cafés, de créer des cafés informatiques libres, réguliers. Il n'y a pas de support dans l'informatique libre ou rarement. Et on veut, c'est un peu notre proposition. Aujourd'hui, on serait heureux d'en parler dans les écoles, mais on ne prétend pas être des spécialistes des questions notamment politiques liées à l'informatique libre. C'est presque un autre sujet. Nous ce qu'on aimerait faire, c'est faire découvrir des logiciels libres à des individus. C'est de dire, ben voilà, il y a des alternatives existent, regardez-les, les gens qui les développent n'ont pas toujours les moyens d'en parler, ils vont pas diffuser des informations à propos de ces logiciels, ils n'ont pas le temps. Ben nous, on aimerait juste déjà faire découvrir ces logiciels et de le faire dans les écoles. À Genève, ils ont dans les écoles primaires, ils sont passés à Ubuntu, qui est un dérivé de Debian. C'est des choses qu'on pourrait envisager de faire, qu'on ferait volontiers. Pour l'instant, on a une forme de partenariat avec Itopi, qui est une coopérative informatique qui tente de faire de l'informatique autrement. On compte bien continuer à utiliser leurs locaux et leur équipement pour pouvoir faire nos cafés informatiques.
Oui, alors justement, parlons-en des cafés informatiques. Prochaine date, donc ici, là, vous allez dans quelques minutes nous donner un atelier sur les Android et iPhone. Ensuite, votre actualité, quelle est-elle?
Alors, samedi 3 février, donc samedi prochain, de 10h à 17h, on va faire un café informatique libre au 10 rue Lissignol. C'est assez proche de la gare Cornavin. Mm-hmm. Ce sera dans les locaux de Itopi. Et à cette occasion, il y aura une conférence.
Oui, surtout la conférence, ça va être sur la surveillance des masses. On va parler sur les CAFA, proprement dit. À part de ça, pendant toute la journée, de 10h à 17h, on va installer des logiciels libres. Ou installer les systèmes d'exploitation Linux, soit Debian ou Ubuntu.
D'accord, donc les personnes sont invitées à amener leurs ordinateurs, PC, Mac.
Voilà, alors PC et Mac, Linux est compatible avec les deux, et agnostique, il ne fait pas la différence. on est heureux, on est aussi heureux si les gens viennent, on n'a pas besoin de convertir des ordinateurs, comme on appelle ça. Entre nous, on peut aussi, des gens qui ont Windows, qui ont envie d'essayer un logiciel libre, dans Windows, c'est tout à fait aussi possible de changer l'âme de l'ordinateur, c'est parfois difficile. Hein. Après, voilà, nous, on assure un support qui est ce qu'il est. On va pas, on le fait gratuitement, pro bono. Donc on va pas, on veut pas forcer la main, mais c'est l'occasion. Ben, des gens qui n'ont pas forcément d'ordinateur peuvent venir. On a un espace enfant pour la première fois. Je vais administrer. Je pense que la dernière fois, on avait vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient venues. L'informatique, on veut que ce soit inclusif. Et si on crée un petit espace enfant, ça permettra aux personnes de venir et pendant qu'on crée cet espace enfant, les personnes peuvent assister à l'atelier et poser des questions, ce genre de choses.
Est-ce que vous allez, pour les personnes qui malheureusement ne pourraient pas être là, enregistrer les contenus et peut-être les mettre à disposition sur des podcasts? C'est un clin d'œil qu'on vous fait. Hein. Voilà, mais il faut le faire, ce serait bien. Enfin, je trouverais intéressant. On a des enregistreurs à vous prêter, si jamais. Voilà.
Non, il est vrai que la dernière conférence qu'on a fait, on a essayé d'enregistrer. Malheureusement, le caméscope, ça nous a un peu lâché. J'étais un peu mécontent du résultat, mais on va essayer d'enregistrer autrefois.
D'accord. Ok, on va arriver au terme de cet entretien. J'avais juste envie de vous demander, déjà on va citer le site internet, hein, www.lemmen-libre.org, là on y trouve tout. Et puis ben, justement sur la première page, quand on arrive sur le site internet, on a en gros une magnifique, déjà une chouette photo un peu trouble comme ça, on voit le lac et le jet d'eau. Il s'est marqué « Libérons l'informatique !» point d'exclamation, et juste en dessous « Pourquoi faire ?» Alors, pourquoi faire ?
Si on souhaite libérer l'informatique, c'est parce qu'on part de l'a priori, l'assumption qu'elle ne l'est pas aujourd'hui. Nos machines sont des objets qui sont complexes et libérer l'informatique, c'est une façon de réduire la complexité de ces machines et c'est une façon de pouvoir contrôler ces machines plutôt qu'éviter qu'elles finissent par nous contrôler, peut-être sans parler de scénarios apocalyptique. Je pense qu'il y a, il faut rétablir la confiance entre les utilisateurs et les machines, et les machines doivent servir d'utilisateurs. Libérer des machines, c'est aussi par extension libérer des utilisateurs, ou en garantir que leur liberté n'est pas bafouée par l'usage qu'ils font des machines, qui sont des objets, qui peuvent être des objets de surveillance. Donc voilà, pourquoi libérer l'informatique pour pouvoir maintenir la liberté des êtres humains.
D'accord, merci beaucoup.
Oui, Richard. Justement pour complémenter la réponse de mon collègue, c'est pour dire si on utilise Linux, c'est pour lutter contre l'obsolescence programmée, contre l'obsolescence aperçue, que ça nous impose Windows et
ouais, très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin pour cette interview. Alors, nous sommes d'ores et déjà ravis de vous avoir reçu aujourd'hui. On est ravis maintenant de suivre cet atelier et nous serons ravis de vous proposer de revenir parce qu'effectivement, nous aurions plein de questions. Il me semble qu'il y a des sujets vraiment à aborder qui prendraient du temps et qui seraient intéressants en tout cas à aborder. En tout cas, on salue votre travail. Merci beaucoup. Et puis, je vous remercie d'être venu. Je rappelle encore, l'aimant libre, libérons l'informatique, c'est www.lemmen-libre.org et votre actualité, c'est le prochain café informatique qui aura lieu dimanche 4.
Alors, Sam,
Oui, merci, c'est mieux. Samedi 3 février de 10h à 17h au 10 rue Lucignol à Genève. La rue Lucignol, comme vous l'avez dit, c'est juste à côté de la gare. Merci à vous deux et bonne continuation.
Merci à vous.
Merci à vous.
Voilà, on fait une petite pause musicale et puis on se retrouve pour la suite des opérations. C'est parti.